Bonsoir, Tahar Ben Jelloun.
Bonsoir.
Alors, dans votre dernier livre, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas et vous avez des drôles d'occupations pour essayer de dormir.
Je pense qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que dormir, parce que...
Oui, définissons ce que c'est
que
dormir.
Parce que je crois que beaucoup de gens souffrent d'insomnie. Parce que c'est incroyable, depuis que j'ai écrit ce livre, ou pendant que je l'écrivais, le nombre de personnes que je rencontre, ah oui, moi aussi. Et c'est un vrai mal intime, mais très grave. Et en fait, dormir, c'est accepter de mourir. C'est accepter de tomber dans un trou noir, et on ne sait pas si on va le matin en sortir. Alors si, évidemment, il y a ce que j'appelle les trois S, sommeil sans somnifère. Cela, ils m'énervent, parce que cela, ils n'ont aucun problème. Ils mettent la tête sur l'oreiller et paf, ils passent. Ils dorment très, très bien. Mais cela, je crois qu'ils n'ont peur de rien. C'est pour ça qu'ils dorment très bien. Mais en fait, il y a évidemment des situations pas forcément problématiques, mais on peut être heureux et ne pas dormir. On peut ne pas avoir des gros problèmes, des grosses inquiétudes et avoir des insomnies.
Mais l'insomnie aussi peut être synonyme de mort. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, à un moment donné, c'est une torture.
Vous savez, il y a plusieurs sortes d'insomnie, parce que je les ai toutes essayées.
C'est bien, ça va nous faciliter le débat.
La pire, c'est ce que j'appelle l'insomnie sèche, c'est-à-dire impitoyable, qui vous donne même pas envie d'écrire ou de faire quelque chose. Elle est là, elle vous énerve. Et puis, la seule chose qu'elle supporte, et encore, c'est de la musique. Alors je mets de la musique et ça me calme. C'est là, elle est terrible. Et puis il y a l'insomnie créatrice, celle par exemple de quelqu'un comme Jean-Marie Le Clézio, qui est un ami, et lui, il n'écrit que la nuit. Alors je lui dis, mais moi j'adore parce qu'il y a le silence, il y a une espèce de... On est dans un monde extraordinaire. Il invente son monde et là, il rentre dans une insomnie bénéfique, bienveillante, il écrit. Moi, j'y arrive pas, moi, je peux
vous
pas écrire.
Vous n'écrivez pas la nuit?
Ah, je peux pas, je suis nerveux, je me bats, je suis dans une bagarre avec cette insomnie. Et puis, il y a une troisième catégorie d'insomnie, celle qu'on provoque soi-même. Évidemment, si vous faites un dîner très arrosé, bien mangé... Le corps, il ne supporte pas ça. Il lui dit, ça ne va pas. Le corps commence à vous envoyer des SMS. Après, il commence à gueuler. Et après, il vous téléphone. Il me dit, tu n'aurais pas dû me maltraiter comme tu m'as maltraité ce soir. Donc, pour te punir, tu ne vas pas dormir. Évidemment, quand on a le ventre ballonné, quand on a trop mangé, c'est pas mon cas, mais ça m'est arrivé très rarement. Mais c'est ça. C'est une insomnie qu'on provoque à son corps défendant parce qu'on est faible, la fête, Noël, machin, on se met... Et là, il faut faire très attention. Ou alors, il faut faire comme les pays nordiques. Moi, quand je suis trouvé la première fois en Norvège, mon éditeur m'a dit, on va dîner. C'était le matin, il m'a dit, je passe vous prendre à 5 heures. J'ai dit, 5 heures, pourquoi faire ? On va dîner. Et il dîne à 6 heures, enfin, le temps. Je dis, mais il dîne à 6 heures. Je dis, mais moi, à 11 heures, je vais avoir faim. Si je dîne à 6 heures. Et en fait, ils ont bien compris, parce qu'ils ne déjeunent presque pas, eux. Et qui dîne vers 6 heures et demie, 7 heures, le corps, il peut après, s'ils se mettent au lit à 11 heures, minuit, ils peuvent dormir sans problème. Mais ce n'est pas le cas en France, ni en Méditerranée, et encore moins en Espagne. En Espagne, c'est le contraire. L'éditeur me dit, je passe te chercher à 23 heures pour aller dîner.
Vous avez eu le temps de mourir de faim avant, c'est ça?
Non, mais ce n'est pas ça. C'est que moi, je ne peux pas dîner tard. Parce que si je dîne à 11 heures du soir, ça veut dire que ça va traîner jusqu'à 1 heure du matin, et après, c'est foutu la nuit.
Est-ce que vous avez peur de rêver?
De
rêver.
Ah non, le rêve, c'est un copain, le rêve. Ça. Quand on rêve, ça veut dire que je dors, en fait.
Déjà.
Parce que pour rêver, il faut dormir. On ne rêve pas éveillé, pas du tout. Il y a des cauchemars aussi. Alors, parfois, il y a des... Quand l'insomnie essaie un petit peu de vous lâcher, de vous lâcher, il vous faut à la place un cauchemar. Et là, c'est, vous avez quelqu'un qui vous court après avec un couteau pour vous tuer, et vous courez, et il dit, oui, c'est, je viens de ta part, de ta copie, de l'insomnie, là. Il se passe beaucoup de choses. Moi, je suis sûr que dans la salle et dans les publics, il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à raconter sur leur nuit. Et en même temps, ça fait partie, ça fait quoi, le tiers de notre vie qu'on passe dans un lit à essayer de dormir.
Vous voulez dire que depuis que vous avez écrit ce livre et que vous rencontrez vos lecteurs, finalement, ils sont assez prolixes sur le sujet ?
Chacun a quelque chose à raconter. C'est incroyable. C'est un sujet qui intéresse beaucoup le monde. Et parce que c'est une question vitale. Alors, un jour, j'ai allé voir, évidemment, c'était horrible. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où ils ont un laboratoire de sommeil. Si jamais un jour je vous propose ça, n'y allez pas. Hein. Alors, c'est quoi le laboratoire de sommeil ? Ils vous mettent dans une chambre, et ils vous mettent plein de machins dans la tête, et ça, partout. Vous êtes plein de capteurs qui captent tout ça. Et ils veulent avec ça que je dors. Moi, je suis chez moi, bien douillé, avec tout ça, le calme, j'arrive pas à dormir. Ils mettent tout ça, ils veulent que je dors pour qu'ils analysent mon sommeil. Mais ils s'en foutent. Et en fait, je n'ai pas pu dormir. Moi, je me foutais de tout cet attirail qu'ils mettaient. Et en fait, la chose que m'a dit un des médecins, il m'a dit, vous savez, c'est le signe d'une dépression. Je dis non, j'ai une dépression, je connais, c'est pas ça. Il me dit, oui, mais faites gaffe, parce que ça commence avec une insomnie et ça se termine par un suicide. J'ai dit, écoutez, moi, la dépression, j'en ai pas eu dans ma vie, mais quand j'étais tout jeune, j'avais fait de la psychothérapie, j'en ai soigné quelques personnes. Je sais ce que c'est qu'une dépression, ça c'est pas mon cas, j'ai pas de dépression. Il a insisté beaucoup.
Non. Est-ce qu'on connaît toujours la date de sa première insomnie ?
Ah non, on peut pas, ça c'est...
Est-ce qu'on se souvient des conditions qui ont fait... Dans votre livre, votre personnage se souvient quand même du moment où le sommeil s'est absenté.
Oui, mais parce que dans mon cas, enfin privé particulier, parce que là, mon personnage est très différent de moi, dans ma vie, moi j'ai eu un traumatisme que j'ai raconté l'année dernière dans un livre qui s'appelle « La punition ». Quand j'avais 20 ans, je me suis trouvé dans un camp militaire de l'armée où j'étais redressé, corrigé, si vous voulez, par l'armée. Et une des punitions, c'était que nous étions 94 punis. On était dans une grande chambrée qui était faite pour 20 personnes. Et ce qui fait humainement parlant, on ne pouvait pas dormir dans ces conditions parce qu'il y avait des lits à trois lits superposés avec presque une centaine de personnes. Donc, comment dormir dans ce brouhaha et puis des promiscuités inconvenantes et pas bien. Et je pense que j'ai acquis l'insomnie comme on attrape une maladie à ce moment-là.
Vous parlez de la punition et dans votre livre-là, votre personnage. Vous venge un peu. Ce personnage-là, il règle des comptes aussi, un petit peu, par rapport à ce livre ou à cette histoire-là.
Oui, parce que, pour ceux qui ont lu ou vont lire le livre, au départ, le personnage, il découvre par pur hasard qu'après avoir hâté la mort de sa maman, qui était très malade, il va très bien dormir. En général, quand on perd un être très cher, la nuit, c'est difficile de dormir. Et en fait, lui, il trouve une espèce de paix et il dort très, très bien. Et là, il comprend que, effectivement, il a trouvé un moyen pas très honnête de se débarrasser d'insomnie. Sauf qu'au fur et à mesure que le roman avance, qui avance comme un thriller, comme une espèce de roman policier, quelqu'un va lui suggérer d'être utile. De commettre des crimes utiles, de se débarrasser d'un sale pédophile, de se débarrasser d'un tortionnaire. Parce que le tortionnaire, au Maroc, lorsque le roi Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il a fait une chose très très bonne et qui est rare dans le monde arabe. il a instauré une instance, équité et justice, pour se réconcilier avec tous ceux qui ont été victimes de la répression sous le règne de son père. Il y a eu 29 000 dossiers qui ont été étudiés, et les gens ont été indemnisés. Sauf que il n'a pas touché aux tortionnaires, aux gens qui torturaient, aux gens qui faisaient disparaître les familles. Et ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont protesté, pas dans un esprit de vengeance, mais un esprit de justice, parce que quand même, un tortionnaire qui, finalement, continue sa vie comme s'il était un petit fonctionnaire de rien du tout, ça a été très énervant. Et dans le roman, moi, je pousse mon personnage à hâter la mort d'un tortionnaire qui avait un problème médical et qui était dans une clinique. Donc ça devient un petit peu politique.
Votre personnage n'est pas un criminel. Vous le décrivez comme un hâteur de mort.
Oui,
c'est un petit arrangement avec la pulsion quand même. Hein.
C'est pour ça que dans le roman, ni la justice ni la police n'interviennent, parce que finalement, quand il y a une vieille personne, 90 ans, dans un milieu de soins palliatifs en train de mourir, il l'aide à ne plus respirer. Bon, personne ne va soupçonner qu'il a poussé à la mort. Mais en fait, c'est aussi un plaidoyer pour mourir dans la dignité, pour pouvoir choisir le moment où on peut partir. Et en fait, quand il fait ça, il n'a pas l'impression de commettre un crime. Il est mal à l'aise, il se pose des questions, mais il ramasse tellement de points crédit sommeil, c'est-à-dire que finalement la mort lui cède des capacités de sommeil, qu'il vit avec ça.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même sur le fil du rasoir, parce que par exemple quand votre personnage accélère un petit peu la mort du tortionnaire, il dort très très bien après.
Ben oui, parce que tout est relatif et tout dépend de l'importance de la victime, entre guillemets. Il va aider un jour un clochard à mourir, ça ne va rien lui rapporter. Un clochard n'a pas d'importance dans l'esprit des gens. Mais quand il va quand même hâter la mort de ce tortionnaire, qui était un homme important, qui avait un pouvoir, là, cet homme a une importance qui traduit en crédit sommeil.
Alors, comme vous le dites, hein, c'est vrai que ce livre pose vraiment la question de la fin de vie. Et donc, on sent bien à travers ce personnage, et puis les personnages qui sont en souffrance, parce qu'il y a aussi des personnages qui vous demandent, en tout cas qui demandent à votre personnage de l'aide. Parce qu'il y a ceux dont vous interprétez que ça leur ferait du bien de mourir plus tôt, mais il y a ceux qui, au contraire, vous le demandent tout à fait directement. Donc, c'est une question qui vous préoccupe beaucoup.
Je suis préoccupé depuis très longtemps par la dignité en général et la dignité face à la souffrance et à la mort. Moi, je pense que la mort n'est rien, mais la maladie, c'est beaucoup. Et en fait, ce que nous craignons tous en tant qu'êtres humains, c'est pas la mort, parce que la mort, c'est la fin de quelque chose. La mort ne fait pas souffrir, mais ce qui prépare la mort est insupportable. Ce que Marguerite Duras avait appelé la maladie de la mort, c'est-à-dire finalement la maladie qui fait souffrir inutilement et qui fait des ravages, d'abord mentalement, parce que les gens ont peur, et ensuite, ça ne sert à rien de souffrir. Et ça, c'est quelque chose... Évidemment, on ne peut pas ouvrir les portes à une euthanasie totale et partout, parce qu'à partir de ce moment-là, on imagine que certains vont en profiter pour commettre de vrais crimes. Mais il faut laisser quand même aux personnes le choix de leur disparition. Alors évidemment, les religions sont contre ça, parce que c'est une contestation de Dieu, de l'ordre divin. Et c'est comme le suicide. Mais c'est un suicide qui se fait d'une manière apaisée. Alors, l'autre jour, lorsque j'avais écouté une dame qui était atteinte au début de la maladie de Charcot, vous savez, cette sclérose en plaques amyotrophique qui ronge les nerfs et qui est très, très, très grave comme maladie. Ça se termine par suffocation. Les gens meurent en ne pouvant plus respirer. Elle a voulu anticiper la douleur. Elle a décidé de mourir. C'est une femme jeune encore. Elle avait 58 ans, 59 ans. Elle est partie en Belgique mourir. Elle est morte en Belgique parce que là-bas, elle pouvait effectivement se mettre dans une clinique, boire un verre de lait où il y a une pilule définitive. Et elle est morte dans sa dignité à elle. Elle aurait pu le faire en France. Elle n'a pas pu. La loi ne l'autorise pas.
Cette histoire de dignité, c'est aussi ce qui empêche un peu votre personnage de dormir, qui le préoccupe.
Il est préoccupé parce que c'est un scénariste. Un scénariste, c'est quelqu'un qui raconte des histoires, mais qui est ancré dans la réalité. Et c'est la question, la notion de dignité, c'est une des préoccupations fondamentales de tout être humain. C'est les valeurs dans lesquelles, sur lesquelles nous fondons notre vie. Et une des principales, c'est le respect de l'intégrité de physique et morale de chaque être humain, de chaque individu. Et on est dans une société maintenant, que ce soit en France, en Europe ou au Maghreb, où cette notion de dignité est très, très chahutée, très remise en question par l'économie, par la barbarie de l'économie, par cette espèce de scandale de l'exploitation. Le capitalisme est devenu cruel et sans merci, et qui fait que nous vivons vraiment dans des menaces quotidiennes où notre dignité d'être est mise à l'épreuve tous les jours. Je vais parler des gilets jaunes, mais parmi eux, certainement qu'il y a des personnes qui sont atteintes de leur dignité parce qu'ils n'arrivent pas à faire nourrir leur famille correctement. Et que ça, c'est le système qui fait que c'est ainsi. C'est comme, par exemple, les agriculteurs, les paysans, où il y a un taux de suicide énorme. Il y a un suicide tous les trois jours. Et c'est énorme parce que, effectivement, ce sont des gens qui sont atteints par le système libéral de l'économie capitaliste. Ils sont atteints de leur dignité. Ils sont qui travaillent, mais qui voient que leur propre travail est accaparé par les commerçants, enfin les commerçants, les gros commerçants, je ne parle pas des petits commerçants, les grosses boîtes qui font que j'ai appris l'autre jour que par exemple le prix du litre de lait est décidé non pas par le producteur, c'est l'agriculteur, le paysan, le fermier, mais décidé à Bruxelles par des technocrates qui ne connaissent rien de la vie. Et c'est souvent un prix qui est en deçà du prix de revient réel du lait. Enfin, ce sont toutes ces choses-là qui font que il y a tellement de raisons pour ne pas dormir sur ses deux oreilles, comme on dit, parce que c'est une façon d'être vif et en éveil dans une société qui n'est pas humaine ou qui n'est pas... Bon, en même temps, on ne peut pas dire que la société française n'est pas humaine, parce que quand on voit la solidarité qui s'exprime souvent au Téléthon, aux dons, ou les gens qui... C'est quand même... Et puis c'est une société qui est basée sur la solidarité. C'est une société où il y a un système de sécurité sociale qui fait que tout le monde contribue pour que tout le monde puisse être soigné, etc. Bon, mais en même temps, il y a ce système social qui est formidable. Il est de plus en plus menacé par justement le capitalisme barbare.
Ça donne la migraine aussi à votre personnage. Non seulement ça lui provoque des insomnies.
Sont les expressions somatiques de problèmes réels. Mais en même temps, il y a différentes façons de lutter. Moi, je ne sais qu'écrire, donc je lutte avec l'écriture, je raconte des histoires. En même temps, est-ce que ça va aider certaines personnes à résoudre leurs problèmes d'insomnie? Je ne sais pas, mais surtout ne suivez pas l'exemple de mon personnage, parce que lui, il est un criminel. Il faut pas. Non, quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'était un journaliste. Il m'a dit, le problème, c'est que ton personnage est très sympathique. On n'arrive pas à lui en vouloir. Je dis, c'est vrai, il est sympathique.
Oui, c'est vrai, il est sympathique. Il est torturé. Il a un petit côté du personnage de la peau de chagrin d'Honoré de Balzac qui est prêt à vendre son âme pour gagner un petit peu de bonheur.
Il voit un peu, pas beaucoup. Il voit un petit peu.
Il a un petit peu de ça, non ?
Bon, mais en même temps, il est... Il a quand même un copain qui est pas très catholique.
Oui. Et puis surtout, il évolue dans un Maroc que vous dépeignez en étant plein dans un film de Fellini, quand même. Il y a une ambiance, pour le coup, très vivante, très chaleureuse. Il y a des femmes qui sont des symboles très forts de vie. Donc, enfin, il y a vraiment toute une gamme de personnages. D'abord, on est presque dans un décor de film. D'abord, votre personnage est scénariste. Il est lui-même tout à fait impacté, beaucoup par les ambiances d'Hitchcock. Oui. Donc, vous faites un parallèle aussi entre l'insomnie et l'inquiétude, le suspense. Est-ce que je vais dormir, oui. Est-ce que je vais pas dormir? Mais en fait, votre livre est lui-même un suspense. Dans le suspense.
Alors, on a demandé un jour à Hitchcock. Pour ceux qui l'ont déjà vu, il était gracieux, il était un peu rond comme ça. Il a toujours été comme ça. Petit, il était comme ça. Et on lui a dit, d'où vient cette passion que vous avez pour le suspense? Il lui a dit, c'est très simple. Quand j'étais enfant, au moment de la récréation, on sortait dans la cour de récréation pour jouer. Moi, j'avais peur qu'on me bouscule. Et si je tombe, il me marche dessus parce que j'étais tout rond, j'étais comme un ballon. Alors, quand j'arrivais à la récréation, je m'étais dans un coin entre deux murs et je ne bougeais plus. Et c'était cette espèce de peur de se faire piétiner par des enfants, parce que les enfants peuvent être très méchants, des enfants qui allaient le pousser parce qu'il était un peu grassouillé, un peu gros, et en faire une espèce de ballon. Ça, c'est Hitchcock. La deuxième chose que m'a appris Hitchcock, c'est qu'il est très difficile de tuer avec ses mains quelqu'un. Il est très difficile de tuer un homme. Évidemment, au cinéma, boum, 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 et ça y est, là. Non. Alors, il y a dans un film où Paul Newman essaie de tuer un espion qui voulait sa peau, et il a beaucoup de mal à s'en débarrasser, parce que physiquement, c'est très dur, c'est très difficile de tuer. Bon, alors mon personnage, il choisit des victimes qui ne sont pas très fortes physiquement. Vous voyez, des victimes qui sont faibles, qui sont âgées, etc. Et puis, il y a les femmes. Alors ça, c'est, encore une fois, la société marocaine vit grâce aux femmes, parce que les femmes sont... Dans la société civile marocaine est tenue par les femmes. Et les femmes font un travail extraordinaire. Elles sont beaucoup plus intéressantes que les hommes. Beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus imaginatives, beaucoup plus courageuses, etc. Et elles sont là, mais elles sont souvent aussi victimes de la société. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant ça, finalement, je parle d'un problème d'insomnie, mais en fait, je parle aussi d'un Maroc qui m'énerve beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui ne marchent pas bien, parce qu'on est une société marocaine qui évolue, mais en même temps, il y a des forces de régression énormes, notamment les islamistes qui sont présents, qui sont populaires en plus. Et il y a cette espèce de corruption à tous les niveaux et partout. Et quand un pays est gangréné par la corruption, c'est un pays qui est condamné. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc tout ça, ça m'énerve. Et j'aime beaucoup mon pays. À chaque fois que j'y vais, je tombe malade parce que je trouve que c'est rien ne fonctionne à cause de cette corruption et en même temps à cause de cette hypocrisie qui fait qu'on met tout sur le dos de l'islam. Alors que moi, j'ai vécu dans un islam très paisible. Mes parents, mes grands-parents, ils n'en faisaient pas une histoire. Ils étaient tranquilles. Jamais on ne parlait de l'islam, du Coran. Et c'est à partir de la révolution iranienne en 1978-79 que l'islam s'est politisé partout et est devenu une arme de combat et aussi du terrorisme. Et ça, c'est insupportable. Et tout ça, ça fait, pour un romancier, ça fait beaucoup de matière et beaucoup d'inquiétude.
Dans votre livre, ces femmes, elles ont beaucoup de force.
D'abord, elles sont toutes... elles aiment tout l'amour, elles aiment le sexe. C'est des femmes qui...
Pleines de vie.
Oui, elles sont pleines de vie et pleines de désirs. Moi, je les vois comme ça, peut-être que je me trompe. Mais,
elles sont très généreuses aussi, hein, dans tous les sens, physiquement, spirituellement. Elles sont très féliniennes.
Féliniennes, pas trop, parce que féliennes, parfois, c'est...
Un peu moins.
Ce qui est félinien, c'est peut-être le ridicule de certains imams qui ont une double vie. On l'a vu, oui, ça c'est...
Et puis il y a aussi le fait que dans votre livre, on est en permanence entre la réalité et le rêve.
C'est jamais tout à fait réaliste, parce que la vie n'est pas réaliste. Le réel tel que nous le vivons quotidiennement est beaucoup plus fort, beaucoup plus violent que toutes les fictions qu'on peut écrire.
Et alors, donc, le Maroc que vous décrivez, il est beaucoup plus libre que le Maroc réel. Vous parliez des femmes qui aiment faire l'amour avec une grande liberté. Vous parlez des hommes aussi qui aiment d'autres hommes dans votre livre. Enfin, il y a une grande plénitude sexuelle dans votre Maroc, dans ce livre-là en tout cas.
Vous savez, toutes les sociétés ont un rapport complexe avec la sexualité, que ce soit l'Europe, même l'Europe du Nord ou le Maghreb. Sauf que dans le Maghreb, il y a cette volonté de transgresser ce qui est interdit. Parce que la religion musulmane, comme la religion juive ou chrétienne, est très, très, comment dire, très sévère avec la sexualité en dehors du cadre du mariage et de l'enfantement. Ça, c'est terrible. Mais au Maroc, il y a une sorte de libération sexuelle, mais hypocrite. Vous pouvez faire beaucoup de choses à condition de ne pas apparaître, de ne pas le faire publiquement, de ne pas provoquer le voisin ou la voisine. Donc, on peut faire... C'est terrible, ça. On peut tout faire au Maroc, mais à condition d'être discret. C'est exactement comme pour le Ramadan. Tout le monde jeûne, mais vous pouvez, si vous allez au marché, vous allez prendre un fruit, commencer à le manger, vous pouvez être lynché par le public, parce que les gens ne peuvent pas supporter qu'eux jeûnent et que vous veniez, que vous commencez à manger devant eux. Mais vous pouvez aller chez vous et manger tout ce que vous voulez. C'est un peu cette hypocrisie qui m'énerve beaucoup. Alors la même chose pour la sexualité. L'homosexualité au Maroc est une réalité comme toutes les sociétés du monde. Nous avons tous entre 10 et 15% de personnes homosexuelles, mais on ne veut pas l'admettre. On n'en parle pas. Tu fais ça, mais silence, en cachette, pas devant tout le monde. Il ne faut pas t'afficher, il ne faut pas ceci. Alors, ça énerve beaucoup de gens. Alors, il y a des médias qui parlent beaucoup de l'aspect schizophrénique chez les Marocains, ou les Maghrébins d'ailleurs, c'est la même chose. Et c'est vrai, c'est de vivre sur deux plans. Un plan officiel, apparent, et puis l'autre côté, ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est le plus important, mais j'ai souvent des choses pires.
Alors effectivement, il est aussi question beaucoup de sexe pour essayer de trouver le sommeil. Vous faites un parallèle qui est assez amusant entre la petite mort de l'orgasme, finalement, et puis cette peur de la mort en s'endormant. Je peux le résumer de cette façon. Ça vous va?
En fait, pour bien dormir, il faut avoir fait l'amour avant.
Mais ça ne marche pas à tous les coups sur votre personne.
Oui, mais un bel orgasme, comme vous dites, ça repose le corps et l'esprit et ça prépare un bon sommeil. Évidemment, quand on n'a pas la possibilité de vivre une histoire d'amour physique et tout ça, évidemment, ça va accentuer la pesanteur de l'insomnie. Mais mon personnage, il ne fait pas ça. Lui, il aime bien faire l'amour l'après-midi. Il trouve que c'est plus...
Oui, mais aussi, il dort l'après-midi. C'est-à-dire qu'il est quand même...
Oui, il fait des siestes. Oui,
il est vraiment singulier, ce personnage. Oui. Il voudrait bien réaliser un film, mais moins que d'aider les autres à mourir. Donc, c'est un scénariste qui n'a pas une ambition non plus démesurée.
Il se contente de ce qu'il a. Il n'a pas envie d'aller à Los Angeles. Il n'a pas envie de faire. Mais en même temps, il écrit des histoires. Il écrit qu'il vend à un producteur complètement dément, mais qui existe. Ce sont des personnages que j'ai inventés, mais qui doivent exister.
Il vous ressemble, ce personnage? C'est-à-dire que Il a envie de vivre pleinement là où il est et il fantasme pas démesurément sur ce qu'il n'a pas.
Moi, je fantasme beaucoup, j'ai beaucoup d'ambition. Non, non. De moi, il a pris quelques traits, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Non, non, c'est pas... Non, il y a des choses qui m'énervent chez lui, quand même.
Qu'est-ce qui vous énerve chez lui?
Ben, c'est quand même quelqu'un qui, comme vous dites, au lieu de se mettre à travailler et de faire un grand scénario, il préfère aller suivre son copain Tony pour savoir dans quelle clinique il est en train de mourir. Enfin, il passe beaucoup de temps à se préoccuper, à ramasser les prix, les points de crédit sommeil, les PCS, qu'ils appellent PCS. Et ça, c'est un petit peu gênant.
Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre personnage vraiment qui déteste le festin nu de William Burroughs et la disparition de George Perec?
Non, ça m'est arrivé, moi. Ouh là là, ça m'est arrivé, c'est vrai. Il y a deux livres qui m'ont rendu malade physiquement, c'est le festin nu de Burroughs et la disparition de Perec.
Oui.
Absolument.
C'est vous.
Ah oui, voilà.
Là, vous en avez profité pour le glisser, parce qu'il fallait régler ce compte-là.
Non, mais c'est quelque chose... J'ai souffert parce que... à l'époque, j'avais... C'est très bizarre. Moi, je ne suis pas un client de ce genre de littérature. Je parle de Burroughs, Perec, oui. Mais j'étais invité à l'époque à New York, puis à San Francisco, pour faire un récital de poésie avec la Beat Generation, avec justement Allen Ginsberg, Ferlinghetti, et puis Burroughs. Et moi, j'étais un tout jeune poète, et je lisais en même temps qu'eux, et j'avais sympathisé avec tous ces gens-là, et surtout avec Allen Ginsberg qui parlait français, alors que Burroughs, il parlait ni français, ni il était silencieux, il disait rien. On ne savait pas ce qu'il parlait. Mais son livre, je vais le lire quand même. Et j'ai pris son livre, Le Festin Nu, et c'était tellement terrible. J'ai pas dormi, bien sûr, mais ça m'a fait persécuter pendant longtemps. Et le deuxième cas, c'est de Perec, c'était beaucoup plus tard. Perec, je le connaissais un petit peu. Et un jour, il m'a dit, tu sais, je vais faire un livre sur Bambarka. Ah oui, c'est très intéressant. Alors, Alpha Bambarka, c'est le leader marocain de gauche qui a été kidnappé en octobre 65 et qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et là, alors je vois la disparition. Beaucoup plus tard, c'était pas un ami que je voyais tous les jours. Et puis un an ou deux ans après, je vois la disparition. J'ai de nouveau. J'achète le livre et je commence. Et puis, je lis la quatrième couverture. Ils disent la prouesse de Perec, c'est d'avoir fait un livre de 300 pages sans qu'il utilise la voyelle E.
Donc déjà, d'entrée, il ne pouvait pas y avoir Ben Barka.
Déjà. Et puis, alors, toute ma lecture était obsédée par la recherche du E. Il va se tromper.
Oui.
Mais c'est pas possible. Et j'ai dit, mais comment il fait? Mais j'étais devenu fou. Malheureusement, je ne l'ai pas revu. J'ai revu une fois, mais je n'ai pas parlé de ça parce que c'était...
Mais ça a perturbé votre lecture, c'est-à-dire que du coup...
C'est un livre que je ne peux pas...
Ah, vous ne l'avez pas... Vous n'avez pas possible.
Je n'ai pas pu continuer parce que c'était...
Et le festin nu, pourquoi est-ce qu'il vous a bouleversé? Pourquoi vous le détestez?
Non, parce que c'est un livre qui a été écrit sous les drogues que utilisait Burroughs.
Oui, oui.
Et effectivement, il y a des images... Si je me souviens maintenant, ben je n'ai pas repris, je n'ai pas relu. Des images très choquantes et qui sont trop choquées. C'est comme si, vous savez, dans le jazz, il y a le jazz de New Orleans classique qui est sympathique, qui est du blues. Et puis il y a ce qu'on appelle un new thing, la nouvelle chose, et qui est une espèce de folie musicale sans harmonie, avec beaucoup de cris, beaucoup de... Donc c'est un peu ça qui m'avait dérangé.
Mais dans le festin nu, justement, dans ces images, qu'est-ce qui vous a dérangé? Le trop-plein, la violence?
La violence?
C'est la violence qui... Vous supportez pas la violence?
Ben, c'est pas un spectacle plaisant, la violence.
Ça, on est d'accord, mais en fait, c'est quelque chose qui vous est...
Non,
absolument insupportable. Enfin, ça l'est évidemment pour tout le monde, mais je veux dire, vous ne pouvez pas lire la violence?
C'est pas ça. Il y a la violence et la brutalité. La brutalité, c'est insupportable parce que c'est la part inhumaine de l'homme. La violence, ça peut être quelque chose de beau, de formidable, parce qu'elle accompagne une naissance, elle accompagne la campagne, une volonté, une ambition. On peut être violent mais pas malveillant. Mais là, par exemple, la violence à laquelle nous avons assisté ces deux derniers mois en France, c'était une violence brutale. C'était pas compréhensible pourquoi on s'attaquait à des gens qui n'ont rien fait, à des commerces, à des œuvres d'art. C'était une violence brutale qu'on ne peut pas tolérer ni supporter parce que on casse quelque chose et on casse pour casser, pas pour construire, pour détruire uniquement.
Dans votre livre, votre personnage qui est plutôt joyeux, c'est vrai qu'on l'aime bien, il avait raison ce journaliste, à sa façon, il dénonce une certaine violence avec une grande légèreté. Vous pensez qu'en fait, on a plus de poids à parler de la violence avec finalement un scénario plus léger ?
Moi, je pense que les problèmes graves de la société... Il faut les traiter avec cette légèreté, avec humour et avec distance. Évidemment, il y a eu Hugo, il y a eu Zola, il y a Balzac qui ont témoigné sur leur époque, sur la société telle qu'elle se faisait et tout ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu ces grands géants de la littérature qui nous ont ouvert les voies et les yeux sur le monde. Mais en même temps, je pense qu'on peut arriver aujourd'hui à dire beaucoup de choses, pas directement, mais indirectement. Parce que nous sommes harcelés quotidiennement par le spectacle quotidien, par les images violentes, les images gratuites, directes, dans les télévisions. Avant, il y avait les télévisions, il y avait une espèce de cérémonial autour de la télévision, il y avait très peu de chaînes. Aujourd'hui, il y a des télévisions qui sont dans la répétition permanente. Ils répètent le même fait et les images et tout ça, ce qu'on appelle les trucs en continu. Mais ça, c'est très violent parce que on dirait que le monde s'arrête uniquement sur cet événement et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans le monde. Et cette violence-là, on devrait s'en méfier parce que il faut pas regarder beaucoup ces gens de chaîne parce que. Et je pense que l'écrivain ou le cinéaste aujourd'hui, il peut nous faire réfléchir beaucoup plus en faisant un petit détour par la forêt, en faisant un petit détour par autre chose que cette espèce de paf, paf, de coup de poing là, sur le visage. On est frappé. La vulgarité qui se développe aujourd'hui dans certaines émissions télévisuelles est une vulgarité qui est devenue banale. Mais insupportable. Il y a médiocrité et vulgarité. On peut parler de tous les sujets. Il n'y a aucun tabou. Mais il y a façon et façon d'en parler. C'est quelque chose... Mais je crois que ça c'est daté, finalement, le jour où Thierry Ardisson, il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, a demandé dans son émission au Premier ministre de la France, Michel Rocard, est-ce que Sucet s'est trompé ? Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, mais c'était pour moi la date de naissance de la grande vulgarité à la télévision française. Et depuis, ça n'a fait que se développer et trouver de plus en plus de journalistes, entre guillemets, ou d'animateurs qui utilisent ce genre de provocation.
Vous parlez justement de mise en scène, vous parlez de Scorsese qui a l'art et la manière, finalement, d'évoquer la violence dans un scénario, de la même façon que vous évoquez la violence à travers vos livres, en général, j'ai envie de dire, et pas seulement celui-ci, avec, finalement, des histoires qui ne sont pas toujours légères, mais en tout cas, qui ont toujours le souci de l'élégance. Donc, effectivement, en parlant de Martin Scorsese... vous faites le parallèle avec le fait que nous avons perdu aujourd'hui le sens de la mise en scène. Le sens de la mise en scène, c'est ça l'élégance ?
La mise en scène, c'est une façon d'encadrer une histoire pour la raconter. Et Scorsese, c'est un grand conteur, un excellent conteur d'histoire. Il raconte d'ailleurs des histoires qui sont typiquement américaines, mais qui intéressent le monde entier. C'est quand même bizarre. Que moi, dans mon coin français, marocain, tout ça, je suis passionné par ces histoires qu'il raconte. Et pourtant, parce que finalement, il met il met en scène les valeurs soit perdues, soit brutalisées, soit reconquises par l'homme. Et dans tous ces films, c'est un peu ça qui est important. Et moi, j'aime bien les créateurs qui vont très loin dans l'imagination. Et c'est quelqu'un de très inquiet. Je l'ai connu un petit peu à New York. Très, très inquiet, très comme ça. Il est petit, il part très, très vite. Il a un regard sur le monde. Il a une vision du monde qui m'intéresse beaucoup.
La littérature, le cinéma, c'est une façon de rêver de façon un peu plus conséquente.
D'abord, il faut dire une chose, que la littérature et le cinéma sont deux choses très, très différentes. Beaucoup de gens pensent qu'un roman, c'est un scénario. Non, un scénario, c'est autre chose. Et on peut adapter des romans, mais il faut faire autre chose que les adapter. Il faut mieux écrire une histoire originale plutôt que d'adapter. Mais la littérature, c'est... Entre, par exemple, passer des heures à lire, je pense à Italo Calvino, à Thomas Mann ou Jean Genet, ou peu importe, et puis de voir un grand film, moi je fais les deux. Je lis un peu et je regarde un film. Ce sont mes nourritures intellectuelles. Et si j'ai le temps, et surtout si j'ai la queue n'est pas trop longue, je vais voir une expo. Mais c'est magnifique. L'autre jour, je suis allé voir au Musée d'Orsay l'exposition Picasso, la période bleue et rose. Il y avait une queue qui dépassait de très, très, très loin le musée, qui faisait le tour jusqu'à la rue de Lille. Heureusement que j'ai une amie qui est conférencière. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, fais-moi entrer par la porte de service, par là où... Elle m'a fait entrer. Mais ce n'était pas gagné, parce qu'à l'intérieur de l'exposition, c'était le rush du métro à 18h à Paris, enfin, le Châtelet, un truc comme ça. Il y avait plein, plein de monde. C'est extraordinaire de voir un peuple qui se déplace, qui vient de province et de partout, pour voir une œuvre d'art. Mais il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus rien voir.
Eh oui, c'est formidable, mais c'est un petit peu...
Mais en même temps, j'étais heureux parce que... J'ai pu voir quelques toiles, deux ou trois toiles que j'aime beaucoup. Mais il y avait beaucoup de monde. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est quand même un peuple, une société qui est cultivée et qui donne d'importance à la culture. Et tant que la France donne l'importance à la culture, on est sauvé. Alors ça, c'est très important.
On a parlé des livres qui vous ont vraiment déplu, des deux livres dont vous vous souvenez qui ont vraiment été un problème dans votre vie de lecteur. Est-ce qu'il y a des livres majeurs qui ont changé quelque chose dans votre vie, dans un autre sens, j'entends?
Il y a plusieurs livres, il n'y a pas un seul. L'histoire de l'île déserte, moi j'ai dit j'emporte un dictionnaire. Moi lui, là, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, il y a des livres, bien sûr, des livres majeurs. Il y a d'abord le Don Quichotte de Cervantes. Moi je le lis en français, dans une très bonne traduction de au seuil de Schulman, enfin ça va me revenir son nom.
Et pourquoi Don Quichotte, hein? Est-ce que vous aimez chez Don Quichotte?
C'était le premier grand romancier de l'Europe. C'est lui qui a introduit le roman moderne dans la culture européenne, bien avant Bovary, Flaubert, tout ça. Et cette histoire absolument incroyable, où il y a des rebondissements, où il y a évidemment ça. Et puis, il y a, avant lui, il y a Les Mille et une Nuits. Mais Les Mille et une Nuits, ce n'est pas un roman, c'est un texte qui a été écrit par plusieurs auteurs anonymes qu'on n'a jamais connus, qu'on n'a jamais révélé qui, on ne sait pas qui c'est, et sur plusieurs siècles. Et c'est un peu la mémoire de l'humanité. Les Mille et une Nuits, c'est la mémoire de l'humanité, avec évidemment des textes hallucinants d'une violence, justement, une grande violence, notamment la sexualité est traitée d'une façon très, très brutale et très, très terrible. Le racisme aussi, Les Mille et une Nuits est un livre plein de racisme, contre les Noirs, contre les Juifs, contre les Chinois, contre tout le monde. Et donc, ce sont des livres qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'humanité. Et après, beaucoup plus proche de nous, il y a les poètes. La poésie, c'est fondamental. La poésie sauvera le monde, si Dieu le veut. Mais enfin, est-ce qu'on lui laisse un peu de place aujourd'hui? Très peu.
Tahar Ben Jelloun, plus qu'un auteur encore, vous êtes un conteur?
J'aime bien raconter l'histoire. Je suis pas... Je vais souvent dans les écoles parler aux enfants, les écoles ou les collèges, ça dépend, mais pas plus, parce que il faut prendre les enfants vraiment à leur début pour leur transmettre des valeurs. Et pour les intéresser, je leur raconte des histoires. Ils adorent ça. Et après, je passe pour leur transmettre certaines choses, et ça passe mieux à travers une parabole, une métaphore.
Mais les grands aussi, ils aiment les histoires. Les adultes aussi, tout le monde aime les histoires.
Oui, mais là, ils lisent les livres, c'est très bien.
Donc en écrivant des livres, vous êtes un conteur, Tahar Ben Jelloun ?
Oui, je compte. Je suis un conteur, mais c'est très écrit, parce que ce livre-là, j'ai mis 2 ans pour le faire, mais c'est inimaginable. Les gens pensent... C'est très curieux, parce qu'un ami l'a lu la semaine dernière, il m'a dit, mais c'est incroyable, je l'ai pris, je ne l'ai pas lâché. C'est fantastique, tu as fait... Et puis, j'ai passé la journée avec toi, je l'ai lu. Je lui ai dit, mais c'est 2 ans de travail, mon cher. 2 ans, pas tous les jours. Je me souviens, je l'ai commencé en début 2017, Et je suis revenu dessus, et j'ai fait plusieurs versions, et il était beaucoup plus gros que ça, il y avait 400 pages, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé tout ce qui était... Et ça, c'est un travail d'écriture qui est fait, parce que je veux que le lecteur, quand il prend un livre, quand il achète un livre, qu'il m'accompagne jusqu'au bout. Moi, il m'arrive de lâcher des livres au milieu... Ça me fait de la peine, et j'ai de la peine aussi pour l'auteur qui l'a écrit, parce que ou l'éditeur qui n'a pas fait travailler l'auteur. Donc, par respect au lecteur et l'actrice, je travaille énormément, et j'espère à chaque fois ne pas les décevoir, parce que si je raconte des histoires et si je trouve un public pour m'écouter, je continue, mais si un jour ils veulent plus de moi, alors je vais m'arrêter.
Vous êtes aujourd'hui assez certain du public qui vous suit.
Il n'y a rien de certain, mon cher. Rien n'est certain dans la vie. Il y a les certitudes, ça fait mal. Ce qui est important, c'est d'être sincère et vivant. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a la liberté. Les gens ont le droit de ne pas aimer ou de s'intéresser à autre chose. Mais moi, je fais tout pour... mon travail consiste à être le plus sincère et le plus rigoureux dans ce que j'ai fait et ce que j'écris.
Ce sera ma dernière question. Quand même, Tahar Ben Jelloun, en écrivant ce livre, est-ce qu'il y a un petit peu de cette envie de temps en temps de se débarrasser de gens qui nous agacent?
Si on ouvre ce dossier, on est foutu. On a tous autour de nous des personnages qui nous pourrissent la vie, qui nous, disons, des personnages, comment dire, c'est incroyable. J'ai vu l'autre jour, je regardais parce que ça m'intéressait beaucoup, une émission sur les pervers narcissiques. C'est incroyable le nombre de gens qui vivent l'enfer à domicile. D'un côté, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Vous savez, mais en général, je pense que les grands manipulateurs sont les hommes. Mais il faut pas sous-estimer la capacité de nuisance de certaines femmes. Non, je veux dire, il faut pas faire du sexisme. Je pense que les pervers narcissiques sont dans les deux camps. Sauf que la société, elle est faite de telle manière que quand on est pervers narcissique et quand on est homme, on a davantage de moyens de faire souffrir la femme en face, la compagne ou la femme ou l'épouse, peu importe. Et c'est quelque chose de terrible. J'en ai rencontré des pervers narcissiques quand je faisais de la psychiatrie. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à soigner. Parce que le fonctionnement... Le fonctionnement de ces personnes est basé sur la douleur qu'ils peuvent infliger à l'être avec lequel ils vivent ou qu'ils disent aimer. J'ai jamais compris ce que c'est que l'amour quand il avoisine les coups de poing et les coups de couteau, etc. Donc c'est très étrange. Et on est dans une société où finalement il y a beaucoup de petites guerres civiles, des guerres conjugales à l'intérieur de. Il faut voir le film de Bergman, Scène de la vie conjugale. On a affaire à des gens très cultivés, très éduqués, des couples bourgeois sympathiques qui vont dans les musées, qui écoutent la musique. Qui sont... Et puis, petit à petit, on va se rendre compte que ce couple d'être presque supérieur, tellement ils sont cultivés et intelligents, vont devenir des monstres, l'un pour l'autre. Il va y avoir une guerre à l'intérieur de la conjugalité, et qui va être une guerre atroce, avec de la violence, avec des coups, avec des choses terrifiantes. Et ça encore dans un pays très civilisé qui est la Suède. Mais on est entouré de gens qui, effectivement, peuvent susciter cette envie de, pas de, de les supprimer, mais au moins de les éloigner. On peut les aider à les éloigner, mais... Il n'y a pas pire qu'un voisin malveillant. Moi, j'avais un voisin, il y a longtemps, j'avais un voisin qui était au-dessus de mon... C'était mon bureau, en fait. C'était au-dessus de mon bureau. Et de temps en temps, moi, j'aimais bien fumer un petit cigare, comme ça, tranquille. Et j'étais seul, je fumais, pour le plaisir. Et il descendait, il tapait à ma porte, il me dit, « Monsieur, la fumée du cigare me gêne. » J'étais incroyable. Il dit, je suis chez moi. J'ai fumé un cigare. Il me dit, non. Et un jour, il est revenu avec un architecte pour voir les failles par où passe la fumée. Il me dit, ça va pas. Et c'était un type. Il était assez fou, mais pas. Enfin, il était fou, mais pas assez pour qu'il soit enfermé. C'est le pire. Parce qu'un fou délirant, ouais, bon, on sait qu'il est. Ouais. Mais un type qui a des apparences civilisées comme ça, qui parle, lui, et puis après, paf, mais on ne peut rien faire contre ces gens-là. C'était un pervers total. C'était incroyable. Enfin bon. Mais la seule manière pour moi de le supprimer, c'est d'avoir déménagé. Et il m'a persécuté après. Il a essayé de me retrouver et tout. Parce qu'il voulait absolument... Ah oui, oui. C'était un drôle.
Il voulait absolument que vous arrêtiez de fumer.
Comment ?
Il voulait que vous arrêtiez de fumer, même pas, loin.
Non, mais il voulait plein de choses. C'était un type très, très... Mais cette expérience du voisinage, nous, on la vit très mal au Maroc, parce qu'au Maroc, on n'est pas très, très... On n'a pas beaucoup l'esprit civique au Maroc. Hein. Le mec, le voisin, il met la télé à fond, il gueule et tout. Et quand vous lui dites, s'il vous plaît, hey, je suis chez moi, je fais ce que je veux, etc. Donc, quand on arrive en France, on est assez content de voir quand même qu'il y a un voisinage qui respecte plus ou moins les convenances. Quoi.
Merci, Tahar Madjelou.
Merci à vous. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire l'insomnie. Il n'y a pas de recette pour s'en sortir. Hein. Y a pas de... Parce qu'à un certain moment... Il y a une scène que j'ai dû couper parce que... Une scène, pas comme dans un film. Il y a des pages que j'ai dû couper parce que mon personnage, il décide, pour lutter contre l'insomnie, de se débarrasser de tous les médicaments qu'il prenait, soit les calmants, les somnifères, les trucs aux herbes, les machins de nature. Et là, il cite tout ça. Il y avait toute une page de noms... Et puis mon éditeur me dit, on n'a pas le droit de citer les médicaments parce que on peut avoir un procès pour ça. Ah bon, très bien, j'ai tout enlevé, la page est terminée. Et puis la semaine dernière, je lis l'inévitable Houellebecq, et lui, tranquille, il parle de tous ces médicaments. Je dis, mais alors ça va pas, ce qui est valable pour lui n'est pas valable pour moi.
Ah non, ça va pas.
Oui, mais c'est la même chose pour le... Le livre, comment il s'appelle, La carte du territoire. Dans La carte du territoire, Houellebecq, il a plagié 4 pages de Wikipédia. Complètement. Copier-coller. Alors, moi, j'ai dit à mes camarades du Goncourt, j'ai écouté, c'est un plagiaire. Oui, mais c'est Houellebecq, il peut tout faire. Moi, j'aurais fait ça. Moi, mamie, j'aurais déjà eu le canard enchaîné contre moi, les aurochs et tout ça. Bon, bref. Donc, oui, il n'y a pas de recette. Contre le soleil, sauf que la recette principale, je ne vous la conseille pas parce que elle peut vous mener en prison. Mais vous pouvez quand même, de temps en temps...
Mais on peut lire. Hein? Si on ne dort pas, on peut lire, déjà.
On peut lire, oui, on peut lire... oui, mais ça,
on peut lire votre livre.
Hein?
On peut lire votre livre sur l'insomnie.
Ah oui, mais j'espère que vous allez le lire. Parce que... non, mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est... J'ai eu quelques échos de lecteurs qui m'ont écrit, tout ça. Ça se lit comme un vrai thriller. C'est-à-dire, finalement, il y a un suspense, on veut savoir ce qui va passer. C'est pas mes habitudes. Moi, je fais des livres plus... un peu graves. Mais là, c'est grave, mais en même temps léger. Alors, il y a une combinaison entre cette gravité du sujet et la légèreté avec laquelle je le traite, qui est quand même une prouesse, parce qu'il faut y arriver à faire ça. Parce que c'est... non, mais c'est vrai. C'est comme... Il y a un livre terrible que je ne vous conseille pas qui s'appelle « Suicide mode d'emploi ». D'ailleurs, il avait été interdit. Mais c'était dégueulasse parce qu'il donne vraiment des recettes pour se suicider. Mais enfin, quand un adolescent qui est un peu faible, qui a des problèmes, lisait ce livre, il s'est suicidé réellement. Avec, voilà, pour éviter de rater votre suicide, il faut faire ceci. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de recette. Mais ça peut peut-être vous donner envie de mieux préparer vos nuits. Et peut-être de les passer mieux que moi, parce que finalement, oui, il y a une recette, la seule que j'ai trouvée, mais bon, je l'ai utilisée quelque temps, il y a très longtemps, et ça c'est vrai, c'est authentique, ça c'est pas du tout. C'était la lecture des romans de Robe Grillée. Alors c'était radical, je commençais. La deuxième page, je commençais à bâiller. La troisième, j'étais genre, non, mais... Et un jour, et ça c'est vrai, un jour, on était ensemble en Italie dans un colloque, et j'aimais bien Robe Grillée. C'était un...
Ah oui, vous lui avez dit.
Un farceur, c'était pas... C'était, bon. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit, tu vois, donc me dire, c'est important. Ils servent quand même à quelque chose. Ça, c'est mieux qu'un somnifère. Je dis, ben voilà, c'est mieux qu'un somnifère.
Merci beaucoup, Tarmé.
Merci.